L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
On s'intéresse maintenant à un thème qui a le vent en poupe en ce moment, celui de la finance responsable. En effet, on constate un engouement de la part des sociétés de gestion sur ce thème. Nous accueillons donc Pierre Philippi, président de Fideas. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Pierre, pouvez-vous nous parler un petit peu de Fideas ?
Fideas Capital, c'est une société de gestion française de taille modeste. On gère un peu plus de 600 millions d'euros, qui jusqu'à présent s'est adressée presque exclusivement aux investisseurs institutionnels, gérant pour eux soit de manière privative, on dit gestion dédiée, soit ayant fabriqué des produits leur convenant bien. Mais nous avons aujourd'hui le sentiment qu'en réfléchissant à la question posée par l'article 173 et à la gestion bas carbone, en nous disant que de plus nous allions pouvoir mettre nos actes en accord avec nos pensées. On parle de conversion en investissement, c'est exactement ce à quoi nous avons pensé. Nous avons décidé que Fideas Capital allait devenir intégralement une société de gestion bas carbone. Nous voulons mériter le label Smart for Climate sur l'ensemble de nos gestions et nous commençons cette démarche par de la gestion dédiée pour nos clients et on a déjà une centaine de millions investis comme ça et on veut continuer parce qu'on juge que au sein de cette préoccupation sur l'environnement, le climat est une urgence absolue en raison de l'irréversibilité des dégâts.
Ouais, alors justement, on a vu dans le sujet, hein, protection de l'environnement, c'était sensible pour les investisseurs particuliers. Vous vous adressez plutôt aux investisseurs institutionnels. Vous êtes persuadé qu'effectivement, il faut agir et agir vite. Vous dites à quelle échéance on est la première génération concernée et aussi la dernière peut-être à pouvoir agir.
Absolument. Les enjeux sont majeurs. On n'arrivera pas à faire grand-chose avant 2020. On n'a pas arrêté d'augmenter nos émissions de CO2. Alors, pour cadrer techniquement, on parle toujours d'émissions de CO2. Mais en fait, on entend là les émissions de gaz à effet de serre qu'on transforme en équivalent CO2. Donc, pour être une seconde technique, il y a essentiellement le CO2, le dioxyde de carbone qu'on émet en brûlant des énergies fossiles, mais également le méthane, sachant qu'un kilo de méthane vaut 25 kilos de CO2 pour son pouvoir réchauffant, et le protoxyde d'azote qui, par exemple, sort de nos pots catalytiques, parce que ce sont des pots catalytiques qui, lui, représentent 300 kilos de CO2 en pouvoir réchauffant pour un kilo de protoxyde d'azote.
Donc
maintenant, une bonne fois pour toutes, on parle de CO2, en fait, on parle d'équivalent CO2. Ça permettra de classer ce point.
Vous dites aussi, et ça c'est important, on va rester dans ce scénario de réchauffement de la planète. Qu'est-ce que ça change 2 à 3 degrés? Vous dites, attention, les effets ne sont pas linéaires. C'est-à-dire, ce qu'on va avoir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça peut être ensuite des catastrophes exponentielles.
Tout à fait. Alors, vous disiez que la France était en pointe. La France est en pointe dans un environnement qui est en pointe, qui est l'Union européenne. L'Union européenne fait la promotion de l'ESG pour de bonnes raisons. Et derrière la terminologie ESG, soyons francs, à la Commission européenne, l'obsession, c'est le climat. L'Europe a décidé d'être en pointe sur ce sujet.
ESG, on rappelle, alors, environnement, social environnement, et de gouvernance. Hein, les trois enjeux,
absolument.
ESG, et on se concentre aujourd'hui sur le climat.
Voilà, nous sommes dans le C du E, si j'ose dire.
Alors, je reviens à ma question, qu'est-ce que ça change 2, 3 degrés, quels seraient les effets?
Ça change énormément de choses. L'objectif de la COP21, c'est pas 2 degrés, c'est bien en dessous de 2 degrés, et les dernières publications du GIEC visent 1,5 degré. Si on dépasse, il y a ce qu'on appelle des effets de cercle vicieux. Prenons un exemple, deux exemples extrêmement simples. La banquise fond, c'est une chose. Le niveau des mers monte, etc. Mais la banquise, c'est quoi ? Avant d'être de la glace, c'est un miroir réfléchissant qui renvoie la lumière du soleil vers le haut et qui évite qu'en dessous d'elle, l'océan absorbe de la chaleur, donc participe au réchauffement. Donc si la banquise fond, elle est remplacée par un océan noir qui absorbe de la chaleur. On sait tous que ça fonctionne comme ça. Une autre chose, c'est par exemple qu'il y a dans le cercle polaire des terres gelées qui s'appellent en anglais le permafrost et en français le pergélisol. Dans ce pergélisol qui commence à fondre, on retrouve les fameux mammouths. C'est pour ça qu'on a retrouvé des mammouths sur les 10 ou 15 ans qui viennent de s'écouler. On a retrouvé pas mal de mammouths. Pourquoi ? Parce que ces terres gelées fondent. Ces terres gelées, ce sont des marais en décomposition. Qu'est-ce qu'il y a dans les marais en décomposition ? Du futur pétrole. En fait, il y a du méthane, du CO2. Le pergélisol...
Ou permafrost.
Le permafrost ou pergélisol peut, en se réchauffant de 30%, libérer 160 milliards de tonnes de CO2. Ouais. C'est-à-dire l'équivalent au rythme actuel, qui est totalement insupportable, de 4 ans d'émissions. C'est-à-dire qu'au lieu de ne rien faire, on va avoir, si on se réchauffe trop, un effet de plus 4 ans. Donc, il y a des effets dits de rétroaction qui font que tout ceci devient de plus en plus dangereux au fur et à mesure qu'on accepte de laisser monter la température.
Voilà, plus le relâchement de virus inconnus, hein, évidemment, qui serait prisonnier de ces glaces également. Bon, ça serait donc
absolument
assez catastrophique. Donc la question, une fois qu'on a posé les termes assez angoissants du débat, qu'est-ce que la finance peut faire, à votre avis ? On entend tous évidemment changer notre style de vie personnel. Il faudrait manger un petit peu moins de viande, il faudrait consommer moins d'avions, essayer les transports ou les mobilités douces, construire sa maison en bois plutôt qu'en béton. Est-ce que moins de croissance, c'est une bonne ou une mauvaise solution ?
Alors, croître autrement, c'est une bonne solution. Moins de croissance, ça n'est pas une bonne solution. Deux raisons simples. La première, c'est que nous, pays riches, pouvons toujours parler de moins de croissance. Allez dire ça en Afrique, allez dire ça en Inde, où 30% des Indiens n'ont pas accès à l'électricité, c'est juste insultant. Donc moins de croissance, c'est une insulte aux pays en développement. C'est la première chose qu'il faut dire très fermement. C'est un caprice d'enfant gâté. La deuxième chose, c'est que ça n'est pas une solution. La solution, c'est une solution de marche en avant et pas de marche arrière. On fait trop de marche arrière dans un monde passé qui, paraît-il, serait merveilleux. C'est faux. Je vous donne un exemple chiffré. Les efforts de réduction d'émissions de CO2 que nous devons faire chaque année pendant les 30 ans qui viennent sont équivalents à la réduction de CO2 qu'a provoqué la décroissance de 2008-2009.
Ouais, qu'on a pas.
Est-ce que nous voulons 30 ans de décroissance au rythme 2008-2009 avec 40% de chômage en Espagne, 15% de chômage en France, 10% de chômage aux États-Unis ? La décroissance n'est pas une solution. Ce qui est une solution, c'est la recherche de solutions, l'investissement dans les solutions. Le monde bas carbone, respectant notre vie actuelle, existe. Respectant le développement, existe. Il faut juste aller le chercher.
Alors, il faut aller chercher. Ça veut dire que du côté de la finance peut agir, puisque la finance a investi, les investisseurs investissent dans des sociétés. Et du coup, il faut, je dirais, séparer le bon grain de livret ou aller chercher les meilleurs élèves qui agissent pour justement maintenir la planète en bon état.
Absolument. Alors, la finance, c'est un des acteurs parmi bien d'autres. Il ne faut pas que le consommateur s'exonère de privilégier les circuits courts, d'acheter des voitures électriques et demain des voitures à hydrogène. Il ne faut pas que le régulateur baisse les bras. Il ne faut pas que les quotas carbone baissent de prix. Évidemment, tout le monde doit agir et la finance a son rôle à jouer. Elle a deux rôles à jouer. Un rôle de financement des solutions. C'est ce qu'on appelle l'investissement thématique green, l'investissement durable, mais vers les fournisseurs de solutions. J'achète des éoliennes, j'achète des panneaux solaires, j'achète des techniques d'isolation et j'investis là-dedans. Je donne beaucoup d'argent à ces gens-là, mais il faut aussi que ces gens-là aient de la demande et il faut aussi considérer que ce sont les acteurs au cœur du marché financier, au cœur du marché boursier, ce sont les entreprises au cœur du marché boursier qui émettent le carbone. En Europe, les entreprises elles seules, sans votre intervention, elles émettent 40% du carbone émis sur le territoire européen. 3,5 milliards de tonnes pour le territoire européen, 1,5 milliard de tonnes pour les entreprises du stock 600. Donc c'est elles qui doivent bouger. Pour qu'elles bougent, il faut que la finance fasse le tri du bon grain et de l'ivraie, retire de l'argent dans tous les métiers à ceux qui se comportent mal, à ceux qui ne font pas attention, et redonne de l'argent à ceux qui s'en comportent bien. Non seulement c'est pousser le monde dans la bonne direction, mais c'est se protéger d'un certain nombre de risques. Parce que ceux qui se comportent mal vont perdre des consommateurs, vont payer des taxes carbone, et vont aujourd'hui, il y a eu un article récent du Monde qui montrait que les jeunes ingénieurs refusaient aujourd'hui de se faire embaucher dans les entreprises irresponsables au plan de la transition énergétique et au plan du climat. Donc, elles vont perdre des salariés de qualité qui vont aller travailler ailleurs, donc elles vont avoir de mauvais ingénieurs, peu de clients et des taxes carbone élevées. Je vois vraiment pas pourquoi on resterait investi chez elles. Donc, ce n'est pas seulement une gestion louable, une gestion responsable, c'est une gestion responsable pour mes finances.
Voilà, gestion responsable pour les finances, on peut investir et faire du bien à la planète. Ça demande effectivement cette discipline d'investissement. Merci Pierre Filippi, vous restez avec nous. Dans un instant, on s'intéresse au marché.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.